France Inter.
Aujourd'hui dans l'affaire sensible, le brouillard toxique de la vallée de la Meuse. Début décembre 1930, une véritable purée de pois envahit une grande partie de l'Europe. Port paralysé, avion cloué au sol, accident en chaîne, le phénomène impressionne. En Belgique, dans la vallée industrielle de la Meuse, entre Liège et Huy, ce brouillard ne se contente pas de gêner, il étouffe et bientôt, il tue. En quelques jours, plus de 60 personnes meurent et des troupeaux entiers succombent. Les autorités pourtant ne s'alarment pas, non, il ne s'agit pour elles que d'un caprice de la météo. Admettons. Mais de là à provoquer une telle hécatombe, étrange. Et puis, comment expliquer que certaines communes soient bien plus touchées que d'autres? Ce drame pose alors une question brûlante, toujours actuelle. À partir de quel moment un environnement industriel devient-il mortel? Car il s'agit de cela, en vérité, et surtout, qui en porte la responsabilité? Notre invité aujourd'hui, Alexis Zimmer, auteur de « Brouillard toxique, vallée de la Meuse, contre-enquête », livre publié en 2016 aux éditions Zone Sensible. Affaire sensible, une émission de France Inter, en partenariat aujourd'hui avec Retro News, le site d'archives de presse de la BNF. Récit documentaire, Florence de Talouette, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Kuhn.
Fabrice Drouel, Affaire sensible, sur France Inter.
Mardi 3 décembre 1930, Angis, Belgique. Louise Damas rentre chez elle. Cette jeune femme a passé l'après-midi à Liège, visite d'une amie, quelques courses. Vers 18h, avant la nuit, elle regagne son village. Elle s'engage dans la petite montée qui mène à la maison de ses parents, juste derrière le talus de la voie ferrée. Une courte ascension, familière, qu'elle connaît par cœur. Sauf que ce soir-là, le chemin semble beaucoup plus long que d'habitude. Elle s'arrête plusieurs fois, reprend, s'arrête encore. Elle a le souffle bizarrement court, comme si l'air s'épaississait au fur et à mesure qu'elle avance. L'envoyé spécial du journal Le Peuple décrit ainsi cet étrange brouillard.
Le brouillard semble par endroits une masse compacte, à limite nettement définie, comme des tranchées. Ici, vous vous trouvez dans un bain gris. Trois pas plus loin, vous vous trouviez dans une atmosphère entièrement nettoyée et vous apparaissiez aux yeux des personnes se trouvant en dehors de la nappe comme un fantôme surgissant d'un mur de vieilles pierres grises.
Quand Louise, 20 ans, pousse enfin la porte de chez elle, elle est haletante, trempée, épuisée par ses quelques dizaines de mètres parcourus. Et sa mère le voit tout de suite. Elle s'inquiète, lui demande ce qui ne va pas. Louise murmure, presque inaudible, « J'ai la tête qui tourne. » Les nausées arrivent aussitôt, les vertiges aussi. Elle doit s'asseoir, puis s'allonger. On la couvre, on essaie de la rassurer. On appelle le médecin. Quand celui-ci arrive, Louise a perdu toute couleur. Son visage est livide. Le docteur écoute sa respiration, pose deux doigts sur son poignet, lui demande si elle est enceinte. Elle répond que non. Le médecin reste perplexe. Plus encore, sur son visage, quelque chose trahit l'inquiétude. Louise n'est pas un cas isolé. Dans la journée, le médecin a déjà été appelé ailleurs pour des symptômes étrangement semblables. Le même malaise, brutal, inexpliqué. Dehors, le soir tombe. La mère de Louise observe par la fenêtre le brouillard qui recouvre la vallée, épais, immobile. Il efface carrément la rue, engloutit la voie ferrée. Demain, se dit-elle, ça finira bien par se lever. Et avec lui, le mal de sa fille disparaîtra. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Et c'est bien ce que disent les journaux à propos de ce brouillard qui recouvre l'Europe, à commencer par l'Angleterre, depuis le début de la semaine. Un épisode spectaculaire, certes, mais transitoire, qu'on raconte en colonne serrée dans les journaux, chiffres à l'appui.
Le vapeur norvégien Asmund, qui se rendait de Russie à Manchester avec une cargaison de blé, s'est échoué hier soir par un épais brouillard sur les rochers au large de Holyhead. L'équipage, qui se compose de 35 hommes, a été sauvé par le canot de sauvetage de Holyhead.
Un brouillard épais règne sur la Tamise depuis hier soir, entravant la navigation. Suivant l'Evening News, le vapeur Picard qui a quitté Tilbury à 22h30 à destination de Dunkerque a dû s'ancrer dans l'estuaire de la Tamise, où il est encore actuellement. Le flamand venant de Dunkerque a dû lui aussi s'ancrer dans la matinée dans l'estuaire de la Tamise.
Ils sont bientôt plus de 200 bateaux à jeter l'ancre dans la Tamise, le temps que l'horizon consente à se dévoiler. Même les avions renoncent. À Croydon, premier aéroport de l'île, aucun appareil venu du continent ne peut se poser. En France, même histoire. Le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme sont recouverts par la brume. À Cherbourg, le port est figé et sur les routes, l'Ouate devient piège. À Anzin, près de Valenciennes, un pharmacien de 58 ans descend régler les phares de sa voiture. Il est tué par un tramway qui ne le voit pas. À Lille, un autre convoi blesse deux passantes. À Douai, un piéton est tué. À Maubeuge, une voiture termine dans un fossé. À Saint-Sylvestre-Capelle, une collision projette des éclats de verre sur deux enfants. Et près d'un passage à niveau non gardé, un attelage est traîné sur plusieurs mètres par l'express Lille-Boulogne. Les chevaux sont tués sur le coup, le charretier saute au dernier moment. Au Bourget, le trafic aérien est interrompu. Un avion militaire, volant très bas pour se repérer, accroche des fils télégraphiques entre Bourges et Vierzon. Puis Paris est touché à son tour. Et on lit dans le journal Le Matin.
Le brouillard, comme disait Monge, est un nuage dans lequel on est. Tandis qu'un nuage est un brouillard où l'on n'est pas. Le jour ne s'est pas levé hier sur Paris. Un brouillard opaque a prolongé la nuit, plongeant la capitale dans une demi-obscurité crépusculaire. Les automobiles et les tramways ne circulaient qu'au ralenti, lanternes allumées. Les magasins avaient illuminé leur devanture. Et dans le nord de Paris, où le brouillard était particulièrement intense, les services du gaz et de l'électricité donnèrent l'ordre dès 7h d'allumer les candélabres électriques et à gaz surpressés.
En Allemagne, Hambourg immobilise des navires. À Berlin, les lumières restent allumées toute la journée. Et puis la Belgique. Les bulletins météo décrivent une crête anticyclonique, des vents faibles, des températures voisines de 4 degrés. Le vocabulaire est net, savant, presque apaisant. Mais sur le terrain, quelque chose résiste à l'explication. Un avion militaire français se trompe de route, il dérive, il franchit la frontière sans s'en rendre compte. Les pilotes ne voient rien. Ils atterrissent dans un champ près d'Aterte. Pas de mort. Le pire est évité, mais de justesse. Pendant ce temps, Bruxelles est engloutie, avalée par cette matière grise qui efface les perspectives. Partout, le brouillard aveugle, désoriente, frappe. Et pendant que l'Europe se heurte à lui, un endroit commence véritablement à suffoquer. C'est la vallée de la Meuse, entre Liège et Huy. Et c'est ici que Louise est frappée. Oui, ici le brouillard est encore plus dense. Il est vrai que c'est une région très âpre, en dehors de l'été, glaciale, grise. Les corbeaux font le reste. Mais là, c'est pire. Lundi, un voile mince. Mardi, le brouillard s'étend. Mercredi, il s'installe, compact, ancré. Depuis les hauteurs, la vallée ressemble à une mer nuageuse. Plus aucun clocher ne dépasse. À peine une cheminée d'usine, et encore. Mais ici, le brouillard ne se contente plus de masquer. Il fait tousser. Le facteur d'Angis se couvre la bouche et le nez d'un mouchoir imbibé d'eau de Cologne pour tenir sa tournée. Et bientôt, ce sont les bêtes qui commencent à suffoquer. Madame Franck, une fermière, témoigne dans le journal La Meuse.
Dans la nuit, mon mari et moi, on ne pouvait pas dormir. On ne se sentait pas bien. J'ai entendu un bruit anormal dans l'étable où il y avait 7 vaches. Je me suis relevée pour voir ce qui se passait. Arrivée dans l'étable, j'ai vu que les bêtes avaient des suffocations. Alors nous avons tout de suite téléphoné à un vétérinaire qui nous a ordonné de transporter sur le champ nos bêtes en dehors de la partie atteinte par le brouillard, plus haut, principalement sur les hauteurs. Malheureusement, 3 de nos bêtes âgées d'un an étaient tellement malades que pour qu'elles soient encore propres à la consommation, mon mari a dû les abattre dans l'étable même. Nous avons fait tout ce qui est humainement possible pour soulager les animaux. À l'intérieur de l'étable, 3 bonbonnes d'oxygène avaient été ouvertes. À la porte d'entrée de l'étable, un feu fut allumé, dans l'espoir d'écarter le danger.
Quelques éleveurs prennent une décision contre toute logique de saison. Sortir les bêtes, les faire quitter l'étable et les mener vers les hauteurs du plateau de Combrose. Sur les chemins en pente, des hommes tirent sur les longes. Les lanternes découpent à peine les silhouettes dans le brouillard. Les bêtes avancent mal, hésitent, souffrent, bruyamment. Certaines chancelent. Alors les éleveurs tirent encore, appellent, force. Puis une vache s'effondre. Une autre s'agenouille, tente de se relever, n'y parvient pas. Et la procession continue. Dans les maisons, on ferme les fenêtres, on colmate les portes, on bourre des interstices de chiffon, on chauffe plus fort. Comme si la chaleur pouvait repousser ceux qui s'infiltrent. Et une question commence sérieusement à s'imposer, mais c'est quoi ce brouillard ? Le jeudi 4 décembre, Louise Damas continue de tousser. Son corps secoué de frissons. Sa respiration se coupe, repart, s'accélère. Elle respire par saccades, comme si l'air lui échappait. Dans le même temps, les hôpitaux de la région commencent à recevoir les malades du brouillard, comme on les appelle. Les admissions se succèdent. Les symptômes se ressemblent. Alors les médecins notent, comparent, s'interrogent. Et on lit dans les journaux.
D'après les premières constatations et de l'avis des médecins, les personnes décédées souffrent d'affections des voies respiratoires ou de maladies de cœur. Le brouillard très dense de ces derniers jours provoque chez certaines personnes une sorte d'étouffement.
Le vendredi matin 5 décembre, alors que les premières lueurs du jour peinent à traverser le brouillard, Louise lutte encore. Mais à peine le jour s'est-il levé qu'elle rend son dernier soupir. À quelques kilomètres de là, à Flémalle-Haute, Jean-Ferdinand, 69 ans, ancien mineur, solide, robuste, est sorti la veille pour aller chez le coiffeur. En rentrant dans sa petite maison ouvrière, il a dit à sa femme « J'ai du feu dans la poitrine ». Le médecin est appelé, une piqûre pour calmer la douleur, rien n'y fait. Le lendemain, malgré les soins, les prières, l'obstination, Jean s'éteint. D'autres suivent, des dizaines, hommes et animaux. C'est une véritable catastrophe. La vallée compte des dizaines de morts. Les bilans fluctuent, 39, 43, 49 décès, 70. Et on évoque même plusieurs centaines de personnes atteintes. Angis apparaît comme l'épicentre de la catastrophe. En l'espace de deux jours, du jeudi au vendredi, 14 décès y sont recensés. Samedi matin enfin, le jour normal revient.
Enfin, il leur fut donné d'apercevoir la clarté du jour. Le brouillard avait disparu. Et tout aussitôt, les malades de se sentir renaître à la vie. L'ouate grise, insidieuse et perfide, inexorable aussi pour tant de malheureux, s'était dissipée. On sentait l'atmosphère purifiée des miasmes néfastes et les poumons osaient enfin s'ouvrir et respirer. Le soleil apparut. Et ce fut dans la région comme une renaissance.
Mais alors, que s'est-il passé ? Monsieur Lacombe, inspecteur de la commission d'hygiène de la province de Liège, convoque immédiatement les élus de la vallée. Une réunion s'ouvre le samedi matin à la maison communale d'Angis. Et Lacombe tranche. Selon lui, il n'y a pas d'autre explication que le seul brouillard naturel et la vague de froid qui l'accompagne. Il l'affirme, et je le cite. Les médecins traitants des diverses localités où des décès ont été constatés sont d'accord avec moi. La plupart de ceux qui sont morts étaient déjà hypothéqués, souffrant des bronches ou d'affections pulmonaires. Les enfants n'ont pas été atteints, eux. Non, il n'y a que des adultes qui sont morts. J'ai visité les pharmaciens et, d'après les prescriptions exécutées, il ne s'agissait pas d'intoxication. Le brouillard seul, par son opacité extraordinaire, est cause de tout mal. Et le docteur Timbal, directeur du service d'hygiène du ministère de l'Intérieur, confirme et dit « Les médecins pensent qu'il s'agit purement et simplement de mort naturelle, provoquée par le brouillard particulièrement intense, froid et humide. » Évidemment, M. Lacombe saisit la balle au bon et dit « Mon enquête est close. » En résumé, circulez. L'enquête en réalité ne fait que commencer. Comment, en effet, un brouillard peut-il entraîner la mort subite de plus de 60 personnes ? Seuls les deux scribouillards de sous-préfecture précitée ne l'ont pas compris, ou n'ont pas voulu le comprendre. Alors, dans la vallée, les questions fusent. Pourquoi la zone d'Amé-Ougré est-elle la plus touchée ? Pourquoi Angis, surtout ? Comment expliquer que cette commune de 3500 habitants compte 14 morts, quand Flémalle, deux fois plus peuplée, en déplore 11 ? Dans le quotidien La Wallonie, les conclusions de la commission de Liège sont jugées hâtives. Pour le moins.
Comment peut-on affirmer, sans qu'aucune analyse bactériologique ait été faite, en l'absence de tout examen microscopique, sans même qu'un poumon soit soumis à l'inspection scrupuleuse d'un médecin légiste, comment peut-on affirmer, de façon formelle, que le brouillard seul est la cause directe et absolue de tant de morts ?
Entends-tu dans ma voix cet accent où se creusent les houes ? Je dis oui, c'est la Meuse qui charrie malgré moi ses chagrins d'avant toi, d'avant nous. Dans ma voix, c'est la Meuse qui cause malgré tout le matin, pas toi. Oh les matins, surtout. Et si parfois ce parfum, sans prévenir, revient, j'y peux rien. J'y peux rien, mon teint pâle, c'est la Meuse, mes grands yeux bleus de pluie, je dis oui. J'y peux rien, c'est la Meuse. Vois-tu à mon teint pâle les stigmates de saison rigoureuse, où la pluie langoureuse s'invite toujours au bal et se hâte de couvrir de brume les pierres malheureuses sans même penser à mal. Mon teint pâle, mes yeux bleus sont un voile de brume. Et si parfois ce parfum, sans prévenir, revient, j'y peux rien. J'y peux rien, mon teint pâle, c'est la Meuse, mes grands yeux bleus de pluie, je dis oui. J'y peux rien, c'est la Meuse. C'est la Meuse, mes grands yeux bleus de pluie, je dis oui, j'y peux rien, c'est la Meuse, c'est la Meuse, c'est la Meuse.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le brouillard toxique de la vallée de la Meuse.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Le brouillard étant passé, le parquet de Liège ouvre une enquête. Le même jour, par décision du ministre de l'Industrie, l'administration des mines est saisie du dossier. Elle qui a la charge de surveiller les puits, les usines sidérurgiques et de zinc, doit déterminer les causes de la catastrophe. Comme quoi la météo avait bon dos. Pendant ce temps, la presse s'emballe. De Paris à Londres jusqu'à New York, l'affaire prend une dimension internationale et les hypothèses se multiplient, bien sûr. Celle du professeur Haldane, chargé de biochimie à l'université de Cambridge, par exemple.
Il y a eu des inondations récemment dans ces régions. Il est probable qu'on doive rechercher là l'origine de cette calamité dans cette eau. Cela me paraît être une épidémie, quelque chose comme la peste bubonique.
Un virus, donc, serait à l'origine de ces morts inexpliquées. La presse britannique rapporte qu'une épidémie inexpliquée du même genre décime le bétail dans le Yorkshire depuis plusieurs mois. L'effet semble faire écho. Mais à mesure que les explications se multiplient, la réalité se brouille, c'est qu'à de lire. Les hypothèses s'éloignent, se contredisent et dérivent. On parle d'essais chimiques menés en secret, de manœuvres militaires dissimulées, de gaz largués par des avions. Oui, l'idée circule, quelque chose serait tombé du ciel. Et dans le soir, un lecteur alerte. Il dit: la guerre à venir sera celle des gaz. Rien que des avions, des hydravions, des dirigeables, chargés de bombes pleines d'acide, qui lancés d'une certaine hauteur sur des masses d'hommes ou sur des villes, se briseront et produiront des gaz mortels. Souvenez-vous de l'explosion de Hambourg en Allemagne et de celle de l'université de Cleveland en Amérique. À quoi devaient-ils servir ces gaz? Pas à fabriquer de l'or, que je sache, ni à faire du levain pour le pain. Et le brouillard de Liège? Qu'est-ce que c'est, hein? Viennent ensuite les hypothèses les plus abstraites. Rayonnement cosmique, perturbation du champ magnétique, force invisible. Pourtant, à écouter les gens de la région, rien de tout cela n'est vraiment nouveau.
Ce n'est évidemment pas la première fois que la région industrielle de la Meuse est affectée par un brouillard qui rend malades les gens et les bêtes. Déjà, en 1897, en 1902, en 1911... À cette époque, comme il y a quelques jours, on dut se borner à enregistrer les décès sans pouvoir déterminer exactement les causes de la catastrophe. En 1911, dans le journal La Meuse, on lisait « C'est un mauvais brouillard qui semble régner sur nos localités avec beaucoup plus d'intensité qu'ailleurs. On compte une dizaine de femmes, et même des vaches, qui ont succombé en grand nombre. » Nous avons demandé à M. Thomas, l'agronome de l'État très distingué, des explications. Voici ce qu'il nous a répondu. L'air est surchargé de vapeur d'eau, de sorte qu'à chaque aspiration, l'animal ne peut introduire dans ses poumons qu'une quantité d'oxygène insuffisante. Il est indiqué que le fermier fasse tout son possible pour enlever à l'air de ses étables son excès de vapeur d'eau. Il y arrivera en répandant de la chaux vive sur le sol de l'étable.
Le dimanche 7 décembre, la reine de Belgique arrive pour un pèlerinage de charité et pour montrer que l'État est là, solidaire, concerné. Une voiture noire fend la vallée. Elle traverse Gemep, Flémal, Angis-Amet. Les rues sont pleines, des enfants agitent des drapeaux. Des hommes et des femmes endimanchés se massent sur le passage. On sent l'émotion, la gratitude aussi pour le geste de la souveraine. Quelques vivats éclatent, ici ou là, retenus pour ne pas trahir le deuil encore proche des victimes du mystérieux et monstrueux brouillard. Alors, en façade, le drapeau national pend, cravaté de noir. Et la reine descend. Autour d'elle, médecins, notables, officiers. Elle entre dans les maisons, serre des mains, murmure une phrase de compassion, thaumaturge. À Angis, elle regarde passer un cortège funèbre. Une musique ouvre la marche. Cuivre, enfant de chœur, curé, attelage, cercueil. Derrière, une foule compacte. Ah mais, quelqu'un glisse à la reine un détail qui dérange. En 1911, un brouillard semblable a déjà tué. 14 morts en moins de 48 heures. Le soir même, une commission d'hygiène est annoncée réunissant des sommités médicales. Et une commission de plus. Elle promet des réponses, dans un mois. Les expertises s'enchaînent. Des autopsies sont menées sur une dizaine de victimes. On découvre des poumons congestionnés, irrités, chargés de fines particules noires, de la suie, du carbone pur. On y trouve aussi de l'arsenic, du zinc, du soufre. Mais, précisent les experts, à des doses habituelles pour une région industrielle. Rien d'anormal donc. Car en effet ici, tout est industriel. La vallée de la Meuse est une vallée de charbon depuis des siècles. Bien avant les usines et les hauts fourneaux, le sol était déjà noir, creusé depuis le Moyen-Âge. Mais avec la révolution industrielle, la vallée change d'échelle. En 1831, le premier ministre belge Charles Rogier donne le cap.
On a senti, messieurs, que si la révolution belge voulait se recommander aux yeux de l'Europe, elle ne devait pas se borner à opérer un grand fait politique et moral, qu'il ne suffisait pas pour justifier son origine qu'elle eût donné au pays la constitution la plus libérale, mais que son œuvre devait être complétée par un fait matériel de la même portée. Ce fait, ce sera la construction d'une route en fer. Cette entreprise sera aux intérêts matériels du pays ce qu'est notre constitution à ses intérêts moraux.
Le charbon devient le moteur de tout. Il alimente le chemin de fer, nourrit les forges, les verreries, les usines de zinc, de soufre, de poudre. Ici, le charbon appelle le charbon. Les cheminées bordent la Meuse, les terrils ferment l'horizon. Le paysage est saturé de fumée, de suie, d'acide. Ici, on vit avec la poussière. On respire ce que l'industrie laisse passer. Du noir dans les poumons. Il y en a toujours eu ici. Un propriétaire a choqué entre Angis et Flémal, hôte, compare. À Bruxelles, le brouillard était épais, à la gare du Midi. Je ne distinguais pas une voiture à 5 mètres, mais je n'ai pas ressenti de malaise. Pour lui, les choses sont claires. Les brouillards de la vallée de la Meuse sont chargés de gaz délétères qui proviennent des usines à zinc et de produits chimiques trop nombreux dans la région. Effectivement, si le brouillard naturel tuait, il n'y aurait plus beaucoup de monde dans cette région et dans bien d'autres partout dans le monde. Les indices, ajoute le témoin, sont visibles depuis longtemps. Les fermiers de la région le savent. Certains arbres fruitiers périssent ou végètent dans la région. Et lorsque les plaintes s'accumulent, les usines paient. Elles indemnisent. Parfois, elles rachètent les terres. Voilà qui est dit. Et dans l'Indépendance belge, un journal, un lecteur précise.
Il n'est guère besoin de connaître tous les éléments de l'enquête pour critiquer ses positions. Il suffit d'avoir traversé la région pour savoir que dans les environs immédiats des usines travaillant le zinc et produisant de l'acide sulfurique, les habitants ne peuvent rien cultiver. L'anhydride sulfureux dégagé, dont l'odeur caractéristique nous est bien connue, est mortel aux végétaux. Il est troublant de constater que cet accident se produit précisément dans une région industrielle.
Autre fait venant corroborer la thèse de la pollution. Contrairement à ce qui était affirmé le lendemain de la catastrophe, les usines à zinc n'auraient pas cessé de fonctionner les jours de brouillard. À Angis, la fabrique d'engrais concentrés aurait même tourné à plein régime. Alors l'hypothèse d'une seule brouillard se fissure et peu à peu, la question se déplace. Elle n'est plus dans ce qu'on retrouve dans les corps, mais ce qui a fait que cette fois, on en est mort. L'administration des mines mandate alors à l'un de ses ingénieurs, M. Massin, pour inspecter plusieurs sites industriels de la vallée, dont l'usine La Nouvelle Montagne. Depuis des années, les riverains dénoncent des nuisances quotidiennes, accusant ce site industriel de relâcher ses gaz la nuit et discrètement, comme l'explique le bourgmestre d'Hermal Soubi.
Aux abords de la société des fours à zinc de la Vieille Montagne à Flône, il s'agit de traverser sur plusieurs centaines de mètres un nuage opaque de fumée jaune, chargé de cendres, qui brûle les yeux, oppresse la respiration, suscite une toux incoercible. Ces gaz assez lourds sont rapidement dissipés quand le vent souffle, mais dans le cas contraire, ils restent au ras du sol et n'avancent que lentement en longues traînées noirâtres. Le matin, parfois, certains habitants retrouvent une bande de leur verger toute noircie et brûlée.
Sur place, Massin constate la présence en effet d'un nuage suspect. Il explique. L'usine est surmontée et parfois tout enveloppée par un nuage de fumée verdâtre, blanchâtre, où domine l'oxyde de zinc. On sent la respiration qu'on aspire un air chaud vicié par des poussières sensibles. Mais ce n'est qu'une impression. Ah bon, une impression. Les chiffres, eux, sont bien réels. En moins d'une semaine, 32 500 kg de charbon consommés, 1370 kg de trioxyde de soufre rejetés. Mais les ingénieurs de l'usine se veulent rassurants. Ces émanations sont ordinaires. Elles se produisent tous les jours de l'année sans provoquer de mort. Nous voilà rassurés. Pourtant, les chiffres parlent. Et ils sont colossaux. Des dizaines d'usines sont visitées. On additionne les rejets. Plus de 30 substances différentes sont répertoriées dans l'air de la vallée. 20 000 tonnes d'anhydrite carbonique, 71 tonnes d'anhydrite sulfureux, plus de 210 tonnes de poussière chaque jour. Et les inspecteurs notent. Faisons remarquer, à titre d'exemple, qu'une centrale électrique de l'agglomération liégeoise lance dans l'atmosphère environ 10 000 kg de suie par jour. Mais là encore, les industriels se défaussent. Rien, prétendent-ils, n'a dépassé l'activité normale durant la semaine du 3 décembre. Bien. Qui incriminer, alors ? Les enquêteurs se heurtent vite à une impasse. Après la catastrophe, les prélèvements révèlent trop de pollution partout, mais sans pouvoir dire quand elle s'est déposée. Impossible dès lors de relier le drame à un rejet précis, à une usine identifiable. Alors, faute de pouvoir désigner un responsable, l'explication se déplace. Les experts convoquent la topographie.
La vallée de la Meuse est étroite, prise entre deux collines. Des escarpements, parfois taillés à pic, la bordent. La Meuse y circule dans une sorte de vaste tranchée. Ces gaz ont dû s'y accumuler en plus grande concentration que ne l'aurait fait admettre leur simple diffusion homogène dans la vallée. La densité industrielle est si considérable. L'agglomération liégeoise, avec l'usine d'Angleur et de Chénet, y forme le cône d'un vaste entonnoir dont la vallée constituerait la douille.
Une vallée encaissée, une cuvette, un entonnoir, un lieu où l'air circule mal, où les gaz restent prisonniers. Peu à peu, l'explication s'impose. La responsabilité ne serait pas tant dans les émissions de gaz que dans le relief lui-même et dans ce brouillard exceptionnel qui aurait alourdi l'air, empêché toute dispersion. Maudit brouillard naturel, maudite nature. Un an plus tard, les conclusions entérinent cette lecture. Une combinaison de conditions météorologiques défavorables et d'une configuration géographique particulière aurait provoqué la catastrophe. Voilà. Et là encore, circulé. Ernest Malvoz, professeur d'hygiène à l'Université de Liège et directeur du laboratoire provincial de bactériologie et d'hygiène, explique.
On remarquera dans les conclusions que les auteurs n'ont cessé de s'efforcer de concilier les nécessités de la santé publique avec les intérêts légitimes des industries. Ce serait tout à fait décevant que, sous prétexte d'hygiène et de protection de la santé, on en arrivât à conclure qu'il faut déplacer les usines, les transporter au loin et priver de leur gagne-pain les populations autochtones.
Puisque la responsabilité n'incombe plus aux usines mais au ciel, il faudrait renvoyer l'environnement naturel devant le tribunal correctionnel. Les actionnaires pollueurs pourraient ainsi dormir tranquilles, voire témoigner contre la météo et le relief assassin. En attendant, il faut s'organiser autrement, et sérieusement. Alors on imagine une coordination nouvelle. L'Institut de météorologie travaillera avec les usiniers et les bourgmestres de la vallée. En cas de brouillard, on réduira les émissions. On préviendra la population, on éloignera les plus fragiles. Mais très vite, les industriels ralentissent le mouvement. Réduire brutalement la production, explique-t-il, mettrait les installations en danger. Et surtout, au redémarrage, la pollution pourrait être pire encore. Peu à peu, l'idée d'une baisse des rejets se délite. Alors une autre option s'impose. Ne pas toucher aux usines. Agir sur le brouillard, puisque c'est lui qui tue. On tente alors l'improbable. De grands bûchers sont allumés. On espère que la chaleur fera monter l'air, qu'elle percera le couvercle, ouvrira des cheminées invisibles par lesquelles le brouillard toxique pourra s'échapper. En vain. On se tourne alors vers les habitants. Il ne reste plus qu'à se protéger. On apprend à enfiler un masque à gaz rapidement, à respirer autrement. Un geste contre les pollutions aujourd'hui, pour la guerre peut-être demain. En tout cas, une pierre deux coups. Sauf que les brouillards ne disparaissent pas. Ils reviennent, encore et encore. Mais jamais les usines ne sont mises en cause. À partir des années 80 et 90, quand l'Europe occidentale se désindustrialise, les brumes toxiques quittent les vallées ouvrières, traversent les continents et réapparaissent ailleurs. Un matin d'hiver, au début des années 2010, Pékin se réveille sous un ciel opaque. Dans les hôpitaux, les salles d'attente débordent. L'histoire se répète. Mais cette fois, les chiffres ne discutent plus. Les capteurs de qualité de l'air s'affolent. 500, 750, et dans certains quartiers, plus de 900 microgrammes de particules fines par mètre cube. Face à cela, les seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, 25 microgrammes sur 24 heures relève de la fiction. La Chine tire alors plus de 70% de son énergie du charbon. Elle en est aussi le premier producteur mondial. Le brouillard n'a pas disparu. Il a simplement changé d'adresse.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, brouillard toxique. Notre invité Alexis Zimmer. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes maître de conférences en histoire et politique de la santé et de l'environnement au 19e et 20e siècle. Vos travaux s'intéressent aux relations entre les corps et les environnements industriels et à la manière dont la science et la médecine en rendent compte, parfois de façon partielle ou orientée, on l'a vu. Et vous êtes l'auteur du livre « Brouillard toxique, Vallée de la Meuse, contre-enquête », livre paru aux éditions Zone Sensible. Comment êtes-vous arrivé à travailler sur les brouillards toxiques et la Vallée de la Meuse ?
Alors là, c'est un peu une affaire tout à fait contingente. Je suis pas du tout historien de formation initiale et je cherchais à travailler en fait sur des questions de santé au travail, notamment avec une question un peu plus générale, consistait à essayer de comprendre comment nos sociétés avaient-elles pu en fait abîmer le corps de ces ouvriers, de ces travailleurs, de les intoxiquer de manière ordinaire. Donc, quel type de législation, de pratique, d'encadrement avait été nécessaire pour justifier, permettre et d'une certaine façon rendre quasi normal ou évident ce type de situation. Mais comme je n'étais pas formé à la pratique historienne, il m'a fallu assez rapidement, j'ai éprouvé beaucoup de difficultés simplement à travailler sur des archives et à tenter de déplier un récit en fait à partir d'archives multiples dans ce cas-là. Et le brouillard mortel, la vallée de la Meuse, en fait, m'a paru une bonne étude de cas pour faire mes gammes simplement en histoire, donc ça va, puisque c'est un cas circonscrit dans le temps et dans l'espace et que les institutions qui lui sont liés, le type de discours qui lui sont liés étaient relativement circonscrits, ça m'a permis effectivement d'apprendre à faire de l'histoire avec ce brouillard.
Alors ce qui frappe dans cette histoire précise, c'est la rapidité avec laquelle les autorités, les experts parlent de brouillard naturel. Mmh. On accuse l'environnement, on accuse la nature, c'est vrai que la nature a parfois mauvais caractère, hein. La mer notamment, mais bon, c'est tellement facile, quoi, comment on a pu utiliser un argument comme celui-là ?
Il y aurait plusieurs, je crois qu'il y a plusieurs couches de réponses que l'on peut donner à cette question, mais peut-être que la plus, je vais en donner une, c'est que, en fait, si on veut prendre au sérieux, et c'est ce que j'essaye de faire dans ce livre lorsque j'ai enquêté, ce brouillard, ces conditions de production, ce qui a conduit en fait cette vallée de la Meuse à devenir un puissant générateur de brouillard mortel, puisque comme vous l'avez rappelé dans le récit qui précède, ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. Si l'on veut prendre en considération tous ceux qui participent de cette production-là, il faut réussir à démêler des décisions politiques, des infrastructures, des pratiques industrielles qui ont mis près d'un siècle et demi à se constituer à s'implanter dans la vallée, et que remettre en question cette infrastructure industrielle, c'est compliqué, simplement pour des experts aussi qui ont été formés, en fait, à l'université notamment, ou dans les écoles d'ingénieurs, à considérer finalement l'industrialisation des sociétés depuis au moins le milieu du 19e siècle comme une histoire naturelle, évidente, normale, qui va nous conduire progressivement, toutes et tous, vers le progrès, vers de meilleures conditions de vie. Et donc, il s'agit de remettre tout ça en question, en fait, si on prend au sérieux le fait que ce brouillard, il sentait très fort le gaz, il y avait plein de poussière qu'il constituait, et c'est tout cet écheveau-là qu'il faut réussir, et donc il faut être capable de questionner si on ne sait pas le faire, et bien, effectivement, pour rapidement ne pas remettre en question des intérêts industriels ou autres, il suffit de convoquer la nature.
Oui, alors ce qui est choquant aussi, hein, c'est que les habitants, les fermiers, les ouvriers du coin savent depuis longtemps que ces brouillards sont dangereux. Pourquoi ce savoir local est-il systématiquement disqualifié face au savoir expert ?
Alors là aussi, c'est une des lignes que j'ai suivies dans mon enquête, c'est de questionner l'évidence de la légitimité des experts scientifiques à dire le vrai de cette catastrophe. Pour nous aussi aujourd'hui, cette évidence-là est un peu écornée aujourd'hui, notamment par des figures politiques comme celle de Trump, par ce qu'on appelle les fake news, ou on serait rentré dans une ère de post-vérité. Mais au 19e siècle, au début du 19e siècle, c'est un peu l'inverse. En fait, il n'est pas du tout évident qu'un groupe de professionnels ou de savants ait une légitimité plus grande que des personnes qui habitent un territoire, par exemple, pour dire la vérité de certains phénomènes qui s'y produisent. Donc, pour arriver à ça, il a fallu y travailler. C'est-à-dire qu'il a fallu instituer des figures expertes et savantes qui, à partir des méthodes spécifiques qu'elles mettent en place, hein, qu'on appelle aujourd'hui des méthodes scientifiques, etc., auraient une plus grande légitimité. En fait, c'est un grand travail de disqualification progressive des paroles ordinaires et des paroles de celles et ceux qui habitent dans les habitants, et ça, qui habitent pardon, sur ces territoires. Et ça, il y a notamment, pour essayer de comprendre comment ça s'est fabriqué en Belgique, je me suis notamment penché sur un épisode de contestation des industries au milieu du 19e siècle, parce que c'est un autre point aussi, l'industrialisation s'est faite dans un paysage extrêmement contesté, du fait notamment des dégâts environnementaux qu'elle engendrait. Et donc il a fallu, en fait, les habitants de ces vallées-là constater en fait, les effets de ces poussières, de ces fumées sur leur bétail, sur leur production agricole. Donc il a fallu, en fait, disqualifier, minorer, neutraliser progressivement ces témoignages et ces expertises locales pour permettre le développement industriel. Et ça, ça s'est notamment passé par l'émergence, le soutien par l'État, d'une figure d'expertise scientifique.
Alors justement, ça pose aussi la question de l'indépendance des experts. Et aujourd'hui encore, on peut entendre des experts qui sont mandatés par les entreprises qui seraient attaquées. J'imagine qu'à cette époque-là, c'était encore pire.
Oui, alors moi j'ai essayé de prendre le problème par un autre bout. C'est-à-dire que typiquement, l'expertise, alors effectivement, le docteur Lacombe qui dit que ce n'est que le brouillard, là effectivement c'est un mensonge grotesque, ça tient pas longtemps d'ailleurs. Mais par contre, les experts qui vont bosser pendant un an pour essayer de donner des conclusions un peu plus consistantes en fait pour expliquer cette catastrophe, eux je crois qu'en fait ils font bien leur boulot. Si ce n'est éventuellement, ils vont tenter de minorer, ils minorent, ça on le voit très bien, le fait qu'une usine parmi d'autres aurait peut-être dégager plus de gaz que d'autres usines, mais globalement ils font bien leur boulot, en fait ils répondent à la commande qu'on leur fait, c'est-à-dire comment durant cette première semaine de décembre 1930 ce brouillard a-t-il pu tuer. Le problème c'est qu'ils respectent ce cadre, parce que si on sort de ce cadre et qu'on ne cherche pas à interroger uniquement cette première semaine, la production événementielle finalement de ce brouillard très circonscrite dans le temps, et qu'on essaie de comprendre pourquoi, comme ils le découvrent eux-mêmes lorsqu'ils font l'analyse toxicologique des corps, pourquoi dans ces corps il y a autant de métaux lourds, de substances diverses. Pourquoi dans les végétaux qu'ils analysent, il y a autant de substances toxiques? Là, c'est tout, encore une fois, il s'agit de questionner plutôt, encore une fois, l'industrialisation d'un territoire et ses conséquences pour la santé et l'environnement. Donc, ils font bien leur boulot, mais ils ne remettent pas en question le cadre épistémologique aussi bien de leur profession que de la commande qui leur est faite.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Alexis Zimmer, dans votre livre, vous montrez à quel point le charbon régit toute la société. Et c'est bien pour ça qu'on a du mal à l'accuser, à ne pas se lancer dans une contre-révolution industrielle, ne pas aller à l'encontre du sens de l'histoire. J'imagine que d'autres pays, on l'a dit un peu dans le récit, ont été touchés. Et je pense au Royaume-Uni, berceau de la révolution industrielle en Europe.
Oui, alors effectivement, le Royaume-Uni, alors lui, il y a un célèbre, enfin pareil, donc il y a énormément de brouillard tout au long du 19e siècle et au cours du 20e. D'ailleurs, au Royaume-Uni se produisent les premières recherches qui ont donné lieu à la production d'une compréhension moderne des brouillards. C'est-à-dire que longtemps, les brouillards ont été conçus comme des particules en suspension, enfin des petites bulles en suspension, des bulles aqueuses. Or, avec la reproduction des brouillards, les scientifiques britanniques commencent à travailler sur ces brouillards et se rendre compte en fait qu'un brouillard c'est de la poussière et de l'eau qui se condense sur cette poussière, et donc une région industrielle produira davantage de brouillard que n'importe quel autre type de région parce qu'elle génère des poussières. Et la Grande-Bretagne va aussi donner lieu à un brouillard qui quant à lui va tuer entre 4000 et 6000 personnes selon les comptabilités en 52, donc après la Seconde Guerre mondiale. Et idem, en fait, ce qui est frappant c'est le peu de mémoire collective que nous avons de la multiplication non seulement de ces brouillards mortels, mais plus largement des catastrophes industrielles qui ont émaillé tout le long du 19e et encore le 20e siècle.
Et si on regardait les pics de pollution actuels, qu'est-ce que le brouillard de la Meuse nous apprend sur notre tendance à chercher des solutions techniques à des problèmes politiques? Car la défense de l'environnement est une question absolument politique.
Ouais. Alors là, effectivement, bon, là vous l'avez rappelé également dans le récit, c'est qu'il y a une chose qui est déjà fondamentale à prendre en considération, c'est que nos modes de vie ordinaires reposent sur des économies extractivistes et polluantes extrêmement importantes. Mais une des raisons pour lesquelles on ne le sent plus à certains endroits où on ne le voit plus, c'est qu'une bonne partie des industries qui fabriquent nos biens de consommation quotidiens ont été délocalisées. Donc en fait, ces brouillards, comme vous l'avez évoqué, la Chine, l'Inde, etc., sont encore des lieux où des brouillards de ce type-là se reproduisent de façon assez récurrente. récurrente. Donc, ce que ça nous dit, c'est que, globalement, à chercher des solutions techniques, ce n'est finalement que de mettre des pansements sur des jambes de bois et repousser jusqu'à quand, je ne sais pas, puisque nous allons là typiquement dans une catastrophe, enfin, la catastrophe climatique et environnementale est monumentale. On ne fait que repousser le moment où, finalement, tout ceci va immanquablement soit s'effondrer, soit nous mettre au pied du mur et nous obliger à remettre fondamentalement en question le type d'économie, encore une fois, extractiviste, polluante et dévastatrice du point de vue des environnements et du point de vue social, d'ailleurs, qu'elles engendrent.
Oui, on essaie surtout de s'adapter et pas changer de paradigme.
Exactement.
Est-ce que le classement Seveso a changé quand même un petit peu la donne en termes de protection face aux risques industriels ?
Alors là, je vais être tout à fait franc, je ne maîtrise pas du tout assez bien ce sujet, mais si je peux donner juste une réponse un peu générale, c'est que, c'est encore une fois, c'est une manière de normaliser le risque. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des contrôles plus réguliers, et encore une fois, ce n'est pas forcément le cas. On a Lubrizol, il n'y a pas si longtemps que ça encore, en France, est un exemple, en fait, du fait qu'on pourra toujours, on aura beau mettre des verrous sécuritaires, la catastrophe. Une industrie comme l'avion, un avion, immanquablement, les avions sont faits pour s'écraser, les industries sont faites pour avoir des accidents. Quand je dis ça, c'est pas comme... Il y aura immanquablement toujours des accidents. Mmh. Et donc, c'est se leurrer que de croire que des dispositifs sécuritaires seront à même d'empêcher cela de façon définitive.
Et le tout électrique, est-ce qu'il se présente moins dangereux, finalement ?
Non, ben là j'ai les mêmes réserves, parce que le tout électrique repose précisément sur une chaîne extractiviste monumentale. Donc les environnements qu'on ne détruit pas ici, on les détruit ailleurs, notamment dans toutes les mines, enfin l'extractivisme que suppose la fabrication des batteries, etc. Et puis surtout, encore une fois, là il y a un terme qui est intéressant, c'est notamment ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que de laisser croire qu'on trouve des solutions techniques, pour la voiture par exemple, pour la machine à vapeur, ça a été le cas au 19e siècle, on a amélioré les machines à vapeur, elles ont déversé moins de pollution, mais du coup on a consommé plus de charbon, on a consommé plus de machines à vapeur, et donc du coup on a généré plus de pollution. Et donc, il y a toujours ce mouvement de fuite en avant qui ne cesse de s'exacerber, et le tout électrique est une... et participe de ce mouvement.
Bon, bah tant pis. Hein. C'est pas la bonne solution. Merci infiniment, Alexis Zimmer. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le brouillard polluant de la Vallée de la Meuse. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr.